Alors voilà, on est vraiment heureux d'être là. Donc avec mon épouse, donc on a 3 enfants, Mélisse, Timothée et Siméon. On est engagé dans l'église du Bon Berger à Courcelles maintenant. Et puis on a diverses implications. En particulier pour ma part, je suis impliqué dans une organisation qui vise à implanter des églises en Inde du Nord dans un contexte un peu difficile. Et puis qui travaille exclusivement avec des implanteurs locaux. Des gens qu'on forme sur place pour annoncer l'évangile dans un endroit un petit peu difficile. On compte aujourd'hui un petit peu plus de 40 000 églises qui ont été implantées à travers cette organisation. On est tous les deux dans le monde séculier. Moi, je travaille dans la formation professionnelle et Maud est assistante sociale. Voilà. Alors, moi, j'avais prévu un peu quelque chose ce matin, puis en cours de route, je suis parti sur autre chose. Je vous propose une lecture qui m'a interpellé ces derniers temps et je vous propose de réfléchir ensemble à ce texte un peu étrange qu'on trouve dans le premier livre des rois au chapitre 21. Alors, 1 roi 21, versets 1 à 6. Naboth, un habitant de Jizréel, possédait une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. « Cède-moi ta vigne, je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je t'en paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab « Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, maussade et abattu, parce que Naboth lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vient le trouver et lui demanda « Mais pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne ou, s'il refusait, de l'échanger contre une autre, mais il a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors, cette histoire, de prime abord, elle peut sembler un peu anecdotique dans l'histoire du Livre des Rois, qui nous relate, à partir du chapitre 16, donc 5 chapitres auparavant, l'histoire du roi Akab. Akab, il a régné 22 ans sur Israël, et la Bible nous présente un petit peu son CV au chapitre 16. Il nous est dit au verset 30 à 33, « Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Edbaal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Asherah. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. » Alors c'est un peu la catastrophe, ce roi Akab. Et il a été, au cours de son mandat, confronté plusieurs fois à Élie, Élie fidèle prophète de l'Éternel. Et Akab, il va surnommer Élie mon ennemi, celui qui m'annonce toujours de mauvaises nouvelles. Alors, c'est peut-être pas trop étonnant au vu de son action. Et tout au long de son règne, Akab va se confronter à Dieu au travers du prophète Élie. Il y a cette histoire, peut-être vous vous souvenez, de sécheresse qui va durer 3 ans, qui a été déclenchée sur la parole d'Élie, et puis qui va s'achever par une confrontation entre Élie et puis les prophètes de Baal qui vont se retrouver foudroyés par le feu du ciel. Enfin, plein d'histoires assez extraordinaires. Et puis, il va y avoir aussi une guerre, pardon, avec le roi de Syrie. Et Dieu va donner la victoire à Akab pour lui montrer qu'il est Dieu. Mais Akab n'en fera toute sa vie qu'à sa tête. Et nous voilà au chapitre 21 à parler du roi qui a un projet de potager. Alors, il n'est pas question ici d'une guerre entre prophètes, de territoire, une guerre de territoire avec les peuples voisins. On n'est pas dans les grandes conquêtes du peuple d'Israël. Mais c'est uniquement une histoire de roi qui veut récupérer une petite vigne pour en faire un jardin. Il n'y a pas d'enjeu, c'est une histoire sans vraiment d'importance, qui paraît complètement anecdotique, et elle est pourtant racontée avec détail, et c'est probablement pas pour rien. Alors, on va essayer de comprendre ce matin, de voir ce qu'on peut tirer comme enseignement concret pour nous aujourd'hui de cette histoire. Akab, c'est un roi riche, il possède plusieurs demeures, il a fait construire plusieurs villes. La Bible nous dit, au chapitre 22 du livre des rois, qu'il s'est fait construire un palais orné d'ivoire. Donc, il n'est pas vraiment dans le besoin. Akab, il a des serviteurs, il a des propriétés, il a des cuisiniers. Et je pense qu'il a des jardiniers à son service. Je ne crois pas qu'il plantait les choux lui-même. Mais malgré tout, il a jeté son dévolu sur cette vigne. Il en a plein d'autres, mais c'est celle-là qu'il veut, pour y faire pousser des légumes. Alors sur ce coup-là, moi, Akab, je dois dire que je le comprends un petit peu. En fait, moi, j'aime beaucoup faire du jardin potager. J'en ai un assez grand à la maison, en tout cas suffisamment grand pour faire pousser plus de légumes que ce que j'ai en réalité envie d'en manger. Et j'ai grandi dans un monde un petit peu paysan où la terre, c'est vraiment, c'est important. Et c'est vrai que si j'avais moyen de récupérer un petit bout du champ du voisin, je serais le plus heureux des hommes. Enfin, jusqu'à ce qu'il faille tondre, entretenir, etc. Et l'histoire, elle nous montre finalement que les choses ne changent pas beaucoup avec le temps, avec les siècles. Les hommes qui continuent à lorgner sur le terrain du voisin, l'actualité en est remplie. Xi Jinping lorgne sur Taïwan, Poutine lorgne sur l'Ukraine, Trump sur le Groenland, Elon Musk sur Mars. L'homme en veut toujours plus. Il n'en a jamais assez. Et surtout, comme dans le cas d'Akab, l'homme a une vilaine tendance à oublier qu'il y a au-dessus de lui un roi, un dieu tout-puissant qui règne et qui voit ce qui se passe. Alors, une première question ce matin pour sonder nos cœurs et le mien en premier, quel est notre rapport à la convoitise ? Sommes-nous satisfaits de ce que nous avons ou cherchons-nous toujours à avoir un peu plus ? Dans la parole de Dieu, Jacques, qui est connu pour son franc-parler, nous dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » J'aime bien cette traduction qui dit « La tentation est amorcée par la convoitise. » La convoitise, elle s'installe ni vue ni connue, pour mieux attirer la tentation. Et j'aimerais préciser qu'il n'est pas question que de biens matériels. Je crois qu'on peut aussi on peut être sujet à la soif de posséder l'autre. On a cette histoire aussi entre David qui va convoiter la femme d'Uri, par exemple. Et puis, je crois aussi qu'il y a parfois de la convoitise spirituelle. Alors là, c'est beaucoup plus subtil, mais parfois, derrière l'envie de plus de dons, de plus de miracles, de plus de puissance, se cache parfois l'envie de plus de pouvoir et de succès. Parfois, pas toujours. La convoitise, elle questionne nos désirs et notre asservissement. Suis-je soumis à Dieu ou à mes propres désirs ? Est-ce que j'assouvis mes soifs, mes envies ou celles du royaume ? Je me pose la question à moi-même ce matin. Je m'interroge. Mais je ne vais pas plus loin sur la convoitise. Et je continue en revenant à notre passionné de verger, de potager, pardon, en la personne d'Akab. Alors, il nous faut constater quand même dans cette histoire qu'Akab est disposé à faire les choses bien. Il faut quand même lui reconnaître ça. Il est roi, mais il est prêt à payer le prix de cette vigne. Il est prêt soit à un échange qui est même en faveur de Naboth, un échange pour une vigne meilleure, ou bien à payer sa valeur en argent. C'est une proposition honnête. Franchement, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il y a un petit problème. Cette proposition contrevenait à la loi. En fait, le Lévitique explique que les terres qui avaient été héritées lors de la conquête devaient rester dans les familles qui en avaient pris possession à ce moment-là. Chaque famille héritait d'une terre lors de la conquête du pays d'Israël, et cette terre devait rester dans la famille à laquelle elle avait été attribuée. Et ça, cette règle, Naboth, il la connaît. C'est la raison pour laquelle il refuse cette proposition du roi, parce que c'est osé de sa part. Il dit que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. Ça révèle une certaine droiture de la part de Naboth vis-à-vis de la loi et de l'héritage qu'il a reçu de ses ancêtres. Et quelle est la réaction d'Akab ? Le voilà tout triste. Alors, le texte nous dit, il est abattu, il se jette sur son lit, il tourne la tête contre le mur, il refuse de manger. Bon, ben là, clairement, Akab, il est en train de nous faire un vilain caprice. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement ridicule ? C'est celui d'un enfant gâté. Et puis quand même, il est juste question d'une vigne. Il ferait mieux peut-être de s'inquiéter des temples de Baal qui sont en train de fleurir sur tout son territoire. Et puis des vignes, la Bible nous le dit, il en a déjà, et en plus des meilleures. Il aurait peut-être pu faire son potager sur une qu'il avait déjà. Ce n'était pas la fin du monde, cette histoire-là. Mais non, voilà, il veut cette vigne-là, celle juste à côté de son palais. On pourrait dire la même chose des dirigeants que j'ai cités tout à l'heure. Ils ont un point commun, ils ont déjà tous de grands territoires ou de grandes richesses. Mais ils veulent systématiquement le petit carré du voisin. Et nous ? Et moi ? M'arrive-t-il parfois d'être un chrétien capricieux ? Nous arrive-t-il de bouder lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons ? Alors peut-être pas de cette façon-là, peut-être pas de la même manière qu'Akab, mais parfois je crois qu'on peut être maussade, moi je me rends compte que ça m'arrive, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et il faut le dire, on vit quand même dans une société qui mise tout sur l'envie, le désir, la soif de posséder, tout est tourné sur ça. Et parfois, on perd notre joie parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et puis des fois, c'est des choses inutiles. Enfin, inutiles, sauf peut-être que leur seul objectif, c'est d'étancher la soif qu'on a de les posséder. J'ai longtemps rêvé d'avoir un vieux tracteur. J'ai un jour cédé à ce caprice. Il est au fond du garage en PLS parce qu'il ne marche plus. Enfin bon, un fiasco total. Et après, on se questionne, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin ? Dans le fond, ce caprice d'Akab, il n'est pas très grave. En fait, il a une petite frustration, il n'a pas ce qu'il veut, ça devrait passer. Nous aussi, parfois, on réclame des choses à Dieu qu'il ne nous donne pas toujours. On vit une frustration, ça passe, ça fait partie aussi de la formation de disciples. Contentez-vous de ce que vous avez, nous dit la lettre aux Hébreux. Cette histoire aurait pu en rester là. Mais c'est là qu'intervient Jézabel, la femme d'Akab. C'est une phénicienne qui a introduit le culte de Baal en Israël. Et Jézabel, elle a en fait un petit peu deux possibilités. Elle pourrait soit dire à Akab, mais qu'est-ce que c'est que ce caprice ? Mais t'es ridicule à bouder pour un bout de terrain, t'en as déjà plein des terrains. Et en plus, t'as même pas le temps de t'en occuper. Pour la plupart, tu n'y vas jamais. Et puis voilà que tu vas embêter ce pauvre Naboth qu'à cette petite vigne. Mais tu n'as pas honte ? C'est ça le comportement du roi d'Israël ? Ah ben, il est beau le roi du peuple saint. Il est beau le roi du peuple élu de Dieu. Tes ancêtres auraient honte de toi. L'autre possibilité, elle pourrait dire, mais après tout, tu es le roi. Tu es le roi, tu fais bien ce que tu veux. Tout est dû. Prends possession de ce terrain, saisis-toi de cette parcelle. Ce que tu veux, tu peux l'avoir. Moi, je vais régler ça à la méthode phénicienne. Tu vas voir ce que ça va donner. Vous qui connaissez l'histoire, vous savez quelle est l'option que Jézabel va choisir. On lit la suite du texte. Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël ? Allons, lève-toi, mange et réjouis-toi. La vigne de Naboth, de Jizréel, je vais te la donner. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, les scella du sceau royal et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où demeurait Naboth. Dans ces lettres, elle leur ordonnait « Proclamez un jour de jeûne, installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis, menez-le en dehors de la ville et tuez-le à coups de pierre. » Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats, concitoyens de Naboth, obéirent à l'ordre de Jézabel et firent ce qu'elle demandait dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Les deux vauriens vinrent se placer en face de lui et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi ». Alors on le fit sortir de la ville et on le tua à coups de pierre. Puis les autorités de la ville envoyèrent dire à Jézabel « Naboth a été exécuté à coups de pierre, il est mort ». Alors là, cette histoire de potager, elle prend une tournure terrible. Pour éviter cette frustration éphémère de ne pas pouvoir faire son potager là où il veut, on bascule dans le meurtre, prémédité. Jézabel fait prendre à cette histoire un virage dramatique avec une manigance vraiment tordue. Et puis, ça nous révèle aussi à quel point les magistrats dans cette ville sont corrompus, puisqu'ils vont jouer le jeu, ils vont faire ce qu'elle demande. En tout cas, ils n'osent pas s'opposer à la reine. On peut comprendre, parce qu'elle n'a pas forcément bonne réputation. Et on en vient à prétexter un jeûne pour accomplir le coup monté. Autrement dit, on utilise un prétexte pieux pour quelque chose de terrible. En fait, ce n'est pas une petite fête de village qu'on organise, c'est un événement religieux, spirituel, quelque chose normalement de saint, qui n'est pas fait là pour être agréable à Dieu, mais pour tendre un piège à Naboth. Mais c'est vraiment terrible d'en arriver à une telle perfidie. Tout le monde se fourvoie complètement dans le mal le plus terrible qui va conduire à la mort d'un innocent. Lui qui respectait de son mieux la loi hébraïque, tout ça, rappelons-le, pour un projet de jardin potager. Naboth est victime de la justice de la pire espèce. Et son tort, c'est simplement d'avoir une vigne mal placé, on pourrait dire. Et puis, son tort, c'est aussi de respecter la loi qu'il a reçue, de ne pas céder la vigne qu'il a héritée de ses ancêtres. Alors, je ne sais pas vous, mais ce genre d'injustice en général, ça nous fait bouillir de l'intérieur. On ne supporte pas bien l'injustice. Alors, je dois dire qu'ayant 3 enfants, on peut constater qu'ils sont de très, très bons détecteurs d'injustice. Quand l'un a un petit peu plus que l'autre ou un avantage que l'autre n'a pas, tous les parents connaissent ça, mais les enfants sont extrêmement sensibles à l'injustice. Et il y a des études qui ont été faites qui disent que les enfants, alors je crois que c'est à partir de 2 ans, commencent déjà à comprendre l'injustice, à la ressentir et à ne pas la supporter. Et ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle d'une très, très bonne nouvelle. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est juste. Et c'est pas rien. Je ne sais pas si on saisit pleinement ce que ça signifie. Notre Dieu est juste. Écoutez bien. Akab a fait toutes sortes de choses très mauvaises pendant son règne. Franchement, il a un pédigré qui n'est pas terrible. Il a fait les pires choses qu'on puisse imaginer pour un roi d'Israël. Il a manqué de respect à Dieu. Il en a fait qu'à sa tête. Et pire que tout, il a entraîné le peuple à adorer des dieux étrangers, notamment Baal et Asherah. C'est vraiment le pire qu'on puisse faire. La parole nous dit qu'il a irrité Dieu. Ça, c'est vraiment pas bon. Mais pourtant, c'est cette petite histoire de potager, c'est cette manigance qui va le conduire à sa perte. En fait, Dieu a laissé passer bien des choses, bien des péchés d'Akab contre Dieu lui-même. Il y a bien des choses que Dieu laisse passer, mais c'est cette histoire de potager qui ne passera pas. C'est ce petit détail, c'est cette injustice faite à Naboth qui ne va pas passer. Pourtant, ça semble spirituellement moins grave, bon, quand même, mais ça semble spirituellement moins grave que de rendre des cultes à Baal et d'entraîner le peuple dans cette direction. Et puis, il faut le dire, des meurtres commis, ce n'est pas le premier concernant Akab et Jézabel, il y en a eu pas mal d'autres. Il faut quand même dire qu'ils ont fait exécuter la plupart des prophètes de l'Éternel. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils commettent un meurtre. Là, ça paraît, à côté du reste, finalement, pas grand-chose. Mais c'est ça que Dieu ne va pas laisser passer. Et Élie est chargé d'aller annoncer la sanction. L'Éternel adressa la parole à Élie de Tishbé en ces termes. « Mets-toi en route, va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi ? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens ? Tu ajouteras, voici ce que déclare l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. » Qu'est-ce qu'imaginaient Akab et Jézabel ? Qu'ils étaient suffisamment discrets pour être à l'abri du regard du Tout-Puissant ? Parfois, quand on voit, en tout cas moi quand je vois l'injustice commise par les uns ou les autres, alors c'est toujours plus facile de voir les grands de ce monde commettre l'injustice que nos propres injustices, mais quand on voit certains qui s'emploient à faire le mal, parfois je me dis, mais S'imagine-t-il que Dieu ne les voit pas? Pense-t-il qu'il n'y a pas de Dieu? Dieu n'est pas aveugle, et ce n'est pas parce qu'il laisse faire qu'il ne voit pas. On entend bien des gens dire, mais il est où Dieu dans tout ça, dans tout ce qui se passe? Dieu ne manque rien, rien ne lui échappe, impossible d'échapper à son regard. Et dans cette histoire, Dieu va les laisser faire. Il va les laisser aller au bout de leur manigance, parce que c'est vrai, finalement, il aurait peut-être pu envoyer Élie un peu plus tôt. Il aurait peut-être pu agir au préalable. Ça aurait d'ailleurs peut-être permis de sauver la vie de Naboth. Mais Dieu les laisse faire. Tout comme aujourd'hui, Dieu laisse faire les méchants et les laisse commettre l'injustice. Et c'est parfois dur d'être victime de ça ou de le constater. Mais pourquoi Dieu tu laisses faire? Dieu est souverain. La réponse à cette question ne nous appartient pas. Mais dans cette histoire, Dieu laisse à Akab et Jézabel l'opportunité, et ça c'est important, jusqu'au bout de changer d'avis. Akab et Jézabel ont jusqu'au bout la possibilité de prendre conscience qu'ils sont sur le mauvais chemin. Jusqu'au dernier moment, ils ont la possibilité de changer d'avis et de retrouver la raison. Et je crois qu'il en est de même pour nous aujourd'hui, dans notre marche de foi. Quand il nous arrive parfois de prendre de mauvaises décisions ou d'avoir de mauvais comportements, Dieu nous laisse aller au bout de notre réflexion avec la possibilité jusqu'au dernier moment de renoncer. Je pourrais dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas empêché d'acheter ce vieux tracteur? Mais non, il me laisse aller jusqu'au bout, mais j'avais la possibilité jusqu'au dernier moment de m'en remettre à lui et puis peut-être de ne pas faire de mauvais choix. Akab et Jézabel, ils sont arrivés jusqu'au bout de leur projet funeste, sans remords. Et là, la réaction, elle ne se fait pas attendre, Dieu intervient, Dieu parle à Élie et il lui dit, les mots sont importants, « En ce moment même, Akab prend possession de la vigne. » C'est-à-dire que Dieu ne va pas au bout d'un moment se rappeler de cette histoire et dire à Élie, « Bah tiens, il y a Akab, il a fait un truc là il y a quelque temps, on va le voir. » Non, Dieu, c'est direct. Au moment où Akab va prendre possession de la vigne, en ce moment même, Akab prend possession de la vigne, Dieu parle à Élie, va le voir et va lui dire ce que j'ai à lui dire. Il y aura, voilà, Akab, il n'aura pas le temps de semer les carottes, que Élie débarque et il va lui annoncer que Dieu a tout vu, a compris ce qu'il était en train de faire et a pu sonder le fond de leur cœur. Et la sanction qui tombe, elle est terrible. À la fin de cette histoire, Akab va avoir finalement une bonne réaction, celle qui convient, il va s'humilier. Il va s'humilier devant Dieu, comprendre son erreur, ce qui va lui accorder du répit. Mes amis, notre Seigneur est un Dieu de justice. On honore souvent Dieu pour son amour, sa bonté, sa bienveillance, sa puissance. On peut aussi l'honorer parce qu'il est juste. Alors justice, c'est vrai que c'est un mot parfois qui, à nos oreilles, ne sonne pas toujours positivement, surtout si on s'est fait flasher il n'y a pas longtemps, ou si on est sympathisant du Rassemblement national, je crois que justice cette semaine, ce n'est pas un mot très agréable. Mais dans le fond, c'est tellement rassurant, réconfortant pour nous de savoir que nous nous confions en un Dieu qui est juste, qui ne fait pas de favoritisme, qu'on ne peut pas corrompre. Merci Seigneur pour ça. Vous savez, on ne se rend pas toujours compte parce qu'on est un peu épargné en France. Mais il y a des pays dans lesquels la justice est complètement corrompue. Et c'est terrible de vivre dans ces conditions-là. Et puis pire que ça, il y a des croyances, et c'est le cas de l'hindouisme que je connais un petit peu, où les dieux eux-mêmes sont corruptibles. On peut corrompre les dieux, et c'est horrible. Parce que ça veut dire que les riches, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent librement. Et les pauvres, eux, ils feront tout ce qu'ils peuvent de leur vie, mais c'est la fatalité, c'est le fatalisme. Voilà, ils restent pauvres, ils ne peuvent pas sortir de leur caste. Et ils ne peuvent pas corrompre les dieux en leur faveur. C'est terrible comme situation. Notre Dieu est justice. Qu'est-ce que c'est précieux, qu'est-ce que c'est rassurant. Et ça fait écho à cette soif de justice qui est presque, je dirais, innée au fond de nous. J'ai l'impression qu'on est, ou en tout cas ça se développe très vite, avec une soif de justice. Ce qui va d'ailleurs nous distinguer de tout le reste des êtres vivants. Les êtres vivants, les animaux ne disent pas, les arbres ne disent pas, mais c'est injuste. Nous, on est sensibles à l'injustice et notre Dieu est juste. Et heureusement pour nous, nous sommes en plus au bénéfice de la grâce du sang de Christ parce que finalement, cette soif de justice, elle nous condamnerait nous-mêmes. Si on était honnête avec nous-mêmes, nous serions nous-mêmes condamnés par notre soif de justice pour nos propres fautes. Dieu est juste. Alors, je ne sais pas vous, mais à notre échelle humaine, ce n'est pas toujours facile pour nous de savoir qu'est-ce qui est juste ou pas. Alors, c'est vrai que la politique en France est secouée par les affaires judiciaires, le monde est animé de toutes sortes de conflits, et dans tout ça, il n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est juste. Pourtant, je crois qu'on est invité en tant que chrétien, en tant que petit Christ, à refléter ce trait de caractère du Père. Nous sommes invités à être nous-mêmes des reflets de la justice de Dieu. Alors, je vais essayer d'être concret et on va voir ce qu'on peut peut-être tirer de cette histoire d'Akab et de Naboth. Alors, ce qui est bien, finalement, dans cet exemple, c'est qu'on pourrait se dire « bah, j'ai de la marge ». En fait, dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui nous confrontent, qui nous remettent en question, qui ne sont pas évidents. Mais dans cette histoire, moi, je dois dire que organiser un événement chrétien, spirituel, dans le but de tendre un piège à un frère pour mieux le déposséder de ses biens en ma faveur, je crois pouvoir dire que je suis clean de ce côté-là. Je ne crois pas avoir déjà eu ce genre d'idée. Je crois pouvoir dire que il y a de la marge. Quoique, réfléchissons un instant. En fait, si on relit l'histoire avec attention, on remarquera qu'Akab, il n'a pas vraiment fait grand-chose dans cette histoire-là. En fait, il a un casier judiciaire déjà terriblement rempli, c'est vrai, hein, on l'a cité tout à l'heure, il a fait assassiner des prophètes, il a instauré le culte du dieu Baal, casier judiciaire terrible. Mais dans cette histoire de potager, quand Naboth lui a refusé sa vigne, ben Akab, il a boudé. Mais il a respecté le choix de Naboth à contre-cœur. C'est Jézabel dans cette histoire qui a pris les commandes et qui a tout manigancé. Et tout dans le texte laisse penser qu'Akab n'a aucune idée de comment les choses se sont passées. En tout cas, c'est ce que le texte laisse à comprendre. Et quand le crime est commis, les magistrats informent Jézabel, pas Akab. Elle a détourné son sceau royal. Et cette dernière, elle ne va rien dire à Akab du piège horrible qu'elle a tendu à Naboth. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth qui a refusé de te la vendre, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Lorsqu'il entendit que Naboth était mort, Akab se mit en route pour se rendre à la vigne de Naboth afin d'en prendre possession. En fait, dans cette histoire, les seules infos que Jézabel donne à Akab, c'est « La vigne de Naboth, je vais te la donner. » Et un peu plus tard, Naboth est mort, va prendre sa vigne. Bon, Akab, il n'est pas vraiment responsable sur ce coup-là. Nous l'avons vu, il y a bien des choses que Dieu peut lui reprocher directement. Mais là, pas tout à fait. Alors, il a fermé les yeux, bon, on va y venir. Hein. Mais là, on ne peut pas dire qu'il est vraiment complètement à l'initiative. Mais c'est cette fois-là que Dieu ne va pas laisser passer. C'est cette fois-là que ça ne va pas marcher. En fait, Akab, il n'a pas manigancé, mais, et c'est très important, il n'a pas non plus cherché à savoir ce qui s'était passé. Il a fait semblant de ne pas trouver sa louche, cette mort de Naboth. Il a clairement joué l'hypocrite sur ce coup. Il connaissait sa femme Jézabel. Il savait bien qu'elle avait déjà fait liquider pas mal de prophètes. En fait, tous ceux qui étaient un peu qui s'opposaient à elle, elle les faisait exécuter. Il connaît un petit peu sa femme quand même. Mais dans cette histoire, il est prêt à profiter de son jardin en faisant semblant d'ignorer comment il a été acquis. Akab aurait pu, lorsque Jézabel l'informe que la vigne n'a plus de propriétaire, il aurait pu dire « Mais comment ça, Naboth est mort ?» Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jézabel, rassure-moi. Ne me dis pas que tu es derrière tout ça, que c'est encore un de tes coups tordus, parce qu'on a déjà pas mal irrité Dieu avec toutes tes histoires. Il faudrait y aller tranquille, là. Mais non, Akab, il va profiter d'une injustice qu'il n'a certes pas directement commise, mais qu'il n'a aucunement dénoncée. Et c'est exactement à ce moment-là que Dieu intervient. C'est pas au moment où Naboth est exécuté. Il y a encore du temps qui s'écoule. C'est au moment où Akab va prendre possession de la vigne sans se poser de questions, c'est là que Dieu intervient. Et c'est là qu'il envoie Élie pour annoncer la sentence. Et Akab, finalement, il sait qu'il est en faute. Il ne va pas contester en remettant la faute sur Jézabel. Mais au contraire, il va s'humilier. Je crois qu'il n'est pas impossible que je sois moi-même, que nous soyons nous aussi concernés. N'y a-t-il pas des injustices dont nous ne sommes pas responsables, mais dont nous profitons parfois comme si de rien n'était? Que d'autres manigancent, ça nous n'en sommes pas responsables. Mais quand nous profitons parfois de l'injustice commise par d'autres, nous prenons une part de responsabilité. Alors peut-être vous vous dites, écoute, moi j'ai jamais lorgné sur le potager de mon voisin, contrairement à moi, mais il y a quand même, si on réfléchit bien, dans notre société qui est très impactée par le matérialisme, par le consumérisme, par tout ça, un certain confort, des biens auxquels nous avons accès, qui sont acquis parfois au détriment d'autres, au détriment parfois d'autres peuples. Si certains pays comme le nôtre vivent dans le confort, c'est aussi parfois au détriment d'autres. Et il y a dans notre monde, je vous apprends rien ce matin, des richesses injustement acquises. Pas de notre fait, mais dont parfois nous profitons indirectement. Et je crois que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, fermer les yeux et faire comme Akab, comme si de rien n'était. On ne peut pas faire semblant d'ignorer qu'il y a des gens qui souffrent de l'injustice dans le monde. La Bible nous appelle à chercher en toute chose ce qui est juste, à faire ce qui est juste. Parce que c'est là l'attitude qui plaît à Dieu et c'est l'attitude qu'on peut attendre des enfants de Dieu. Je vais même un peu plus loin. Je crois que c'est l'attitude que la société attend de la part de ceux qui se prétendent être héritiers du Dieu Tout-Puissant et du Dieu de justice. Dans la Bible, beaucoup de passages se réfèrent à la notion de justice. Vous en connaissez certainement plein. Michée va dire « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dans Proverbes, « Pratiquer la justice et l'équité, voici ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Dans Ésaïe, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et cette parole de Jésus, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors cette phrase-là, elle est tellement, moi je trouve que c'est un des plus beaux passages de toute la parole de Dieu, elle est tellement belle. Mais avons-nous vraiment faim et soif de justice? Pas juste un petit casse-croûte pour la route, vraiment faim et soif au plus profond de nous de justice. Alors attention, pas de vengeance, de justice. C'est pas tout à fait pareil. Il y a quelque temps dans mon travail, j'ai été confronté à une collègue qui, devant ma direction, m'a mis en défaut et accusé de pas avoir fait correctement mon boulot, on va dire ça comme ça. Et c'était pour moi une dénonciation injuste. Enfin, j'étais pas pour moi responsable de ce qu'elle me reprochait. Évidemment, moi, je trouvais ça injuste. Et en fait, après cette expérience, je me suis découvert une capacité absolument extraordinaire à imaginer, sans faire d'effort, des plans de vengeance, mais alors parfaits. J'avais des idées, mais des plans, mais vraiment parfaits pour une vengeance vraiment implacable. Et en fait, si on se laisse aller, on est vite entraîné dans cette direction. Et Dieu pourrait nous laisser aller jusqu'au bout de ces mauvaises idées. Alors là, pour ce coup-là, contrairement au coup du tracteur, là, je me suis évidemment ravisé entre-temps, parce qu'il ne me semblait pas être que ça soit l'attitude qui convient à un enfant de Dieu. Mais des fois, la vengeance, on peut être très malin pour ça. Ici, je ne parle pas de la justice dans le sens rétribution pour les actes commis ou condamnation ou vengeance. Plutôt, justice dans le sens ce qui est juste, ce qui est droit, l'attitude qui plaît à Dieu. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur a un profond souci de la justice et en particulier de la justice sociale. Nombreux sont les passages qui mentionnent les veuves, les étrangers, les pauvres, les orphelins, ceux qui n'ont plus de famille, plus de pays, plus de moyens. Dieu est très sensible à la situation de ces gens-là. Et souvent, la bénédiction accordée au peuple dépend de la manière dont il traite aussi au milieu d'eux les pauvres, les orphelins, etc., etc. La Bible, elle n'oppose pas les méchants et les gentils. Elle met en opposition les méchants et les justes. Et il me semble que pour refléter la justice divine autour de nous, nous avons besoin de l'Esprit-Saint. pour être conduit vraiment sur les sentiers de la justice. Pas pour faire ce que nous voulons, mais pour faire ce qui est juste pour nous-mêmes et pour les autres. De manière à ne pas être complice, alors comme dans cette histoire l'ont été les magistrats, les responsables de la ville, qui ont fait ce que Jézabel a commandé, à un moment donné, l'un d'eux aurait pu peut-être refuser de rentrer dans cette manigance, alors probablement au péril de sa vie, mais c'est ça aussi, être la lumière qui éclaire les ténèbres. Et très souvent, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont eu le rôle d'aller dénoncer l'injustice. Et ce n'était pas toujours pas facile, c'était quand même des missions particulièrement difficiles. Mais Dieu les a très souvent missionnés pour aller dénoncer l'injustice auprès des rois. Ça a été le cas d'Élie, ça a été le cas d'Amos, de Michée, d'Ésaïe, de Jérémie, de Jean-Baptiste. Et ça sera évidemment aussi le message de Jésus. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et nous sommes appelés à refléter sa justice et à la répandre dans notre monde injuste. Nous sommes appelés à être ambassadeurs d'un royaume sans corruption, le royaume de la justice. Et je crois que dans ce monde qui perd la tête par bien des égards, dans lequel la vérité et la justice deviennent des notions complètement malléables, abstraites, aux contours de moins en moins bien définis, il nous faut être connus, nous chrétiens, ici dans le pays de Montbéliard, j'inclus évidemment le Bon Berger, comme étant des artisans de justice. Pour terminer, j'aimerais évoquer le fait que nous pouvons, nous-mêmes, être victimes d'injustice. Généralement, là, on a facile de s'en rendre compte. Comme ce pauvre Naboth qui n'avait rien demandé à personne dans cette histoire. Eh bien, c'est dur de le constater, mais dans cette histoire, Naboth n'en a pas réchappé. Il a été victime de l'injustice jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il en meure, sans que Dieu n'intervienne pour le sauver. Et si nous sommes épargnés, nous, ici en France, nous savons qu'il y a bien de nos frères et sœurs dans le monde qui savent trop bien ce que signifie subir l'injustice, être injustement condamné, injustement dénoncé, injustement chassé, dépossédé de ses biens. Dans le contexte de l'Inde, en tout cas sur la partie du Nord, la situation des chrétiens, elle est terrible. Et comme Naboth, ils sont accusés d'insulter les dieux hindous. Et du coup, on considère qu'ils sont impurs et on les prive d'accès à l'eau potable. Certains sont obligés de vivre cachés dans la forêt. Il y a quelque temps, des exactions commises horribles où des femmes ont été découpées à la machette, des femmes chrétiennes, et jetées les morceaux aux chiens du village. Il y a de nos frères et sœurs qui vivent vraiment cette injustice de façon terrible. Et force est de constater, tout comme Naboth, que la justice et la réparation, elle n'est pas forcément pour cette vie-ci. Alors, c'est dur. Et ces frères et sœurs qui vivent l'horreur de la persécution, ils sont fermement attachés, ancrés dans cette espérance d'une vie éternelle où la souffrance et l'injustice auront disparu. Tout est accompli à la croix, merci Seigneur, mais c'est avec foi et espérance que nous nous accrochons à cette vie éternelle qui nous est promise, que nous courons vers le but, comme dit Paul, que nous nous accrochons à cette course pour remporter la victoire, pour ce paradis sans cri, ni larmes, ni douleur, ni injustice. Et pour conclure, j'aimerais qu'on se souvienne que tout ça est rendu possible grâce à ce qui est vraiment la plus grande des injustices de toute l'histoire de l'univers. La mort d'un parfait innocent, le plus parfait innocent, l'être le plus pur, sur une croix romaine. Et ça nous rappelle que Christ sait parfaitement ce qu'est subir l'injustice, parce qu'il a vécu la plus terrible de toutes. Il est le seul à pouvoir dire « moi ». Je suis vraiment innocent et condamné à tort. Souvenons-nous que, quoi qu'il nous arrive dans nos difficultés ou dans les injustices que nous subissons, que la plus grande des injustices, nous n'en sommes pas victimes, nous en sommes au bénéfice. Et cette fois-ci, ce n'est pas à cause du plan tordu de Jézabel, mais c'est grâce au plan du salut, à un plan divin qui nous rachète de nos fautes, le plan du salut en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je veux vraiment te rendre grâce, te remercier et t'honorer parce que tu es un Dieu de justice. Et ta parole nous montre combien, combien tu es juste, Seigneur. Et c'est vraiment, voilà, il y a bien des fois où je ne m'en rends pas suffisamment compte, mais c'est tellement précieux de pouvoir se confier en toi, de pouvoir s'approcher de toi, en sachant que tu connais toutes choses et que tu es le Dieu de justice. Et Seigneur, on peut s'approcher librement de toi parce que nous sommes conscients aussi d'être au bénéfice de ce salut que nous avons acquis par la croix en Jésus-Christ. Nous avons confiance dans le fait, Seigneur, que tu es le Dieu de justice et que malgré nos fautes, nos erreurs, nous sommes considérés comme rachetés parce que Christ est mort sur la croix. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous encourager, nous inspirer, nous conduire par ton esprit, Seigneur, pour que dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos relations avec les autres, nous puissions refléter une petite part de cette justice extraordinaire, de cette justice surhumaine, de cette justice qui vient de toi. Que tu puisses nous inspirer, nous parler, nous montrer ce qui est droit à tes yeux, pour que nous puissions être connus, nous tes enfants, ici dans le pays de Montbéliard, comme étant des artisans de paix et de justice. Amen.